Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. L'artisanat est un secteur en bonne santé. On a choisi de s'intéresser aux métiers de bouche et plus particulièrement aux bouchers charcutiers. Avec un coup de projecteur sur une boucherie installée dans un village aux portes de Toulouse, à Brax, Christophe Guy a su trouver sa place, créer du lien entre les habitants et transmettre sa passion auprès des jeunes. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Le secteur de la boucherie en France, c'est 80 000 salariés. Vous êtes artisan boucher, vice-président des artisans bouchers de la Haute-Garonne et installé à Brax, donc c'est un petit village aux portes de Toulouse. Être boucher, c'est aussi être chef d'entreprise.
Oui, c'est ça. C'est, aujourd'hui, c'est gérer du personnel.
Ouais.
Bon, on a tous quasiment du personnel, et gérer une entreprise. Voilà, avec tous les inconvénients que ça représente. Surtout qu'aujourd'hui, une entreprise, les règles sont les mêmes pour petite entreprise familiale, artisanale, que pour une très grande entreprise.
Ouais. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ?
Aujourd'hui, nous sommes 6.
6, donc voilà. Avec votre épouse ?
Mon épouse, mon fiston qui a rejoint l'entreprise en septembre,
ouais.
En apprentissage.
Mmh.
Et 2 salariés, plus une caissière le week-end et une dame qui vient nous faire le ménage le week-end aussi.
Une petite équipe voilà. À faire tourner, effectivement.
Une petite équipe à faire tourner, à gérer les plannings, voilà.
Vous êtes installé depuis combien de temps dans ce village ?
Alors, nous, on est installé depuis 2000. Mmh. Voilà, nous avons fait l'acquisition de la boucherie à Brax en 2000 et nous avons changé de local pour agrandir en 2010.
Voilà. Être boucher, charcutier, c'était un rêve d'enfant ?
C'est un rêve d'enfant puisque moi j'ai commencé, j'avais 13 ans dans la profession. Et à 25 ans, donc on achetait avec mon épouse de la boucherie à Brax.
Voilà. D'accord, d'accord. Ah ouais, donc c'est votre premier métier en fait.
Tout à fait. Ouais.
Et vous allez continuer ?
Oui,
la
oui,
question...
toujours.
La question
toujours,
terrible.
Toujours.
Vous êtes passionné en fait par ce que vous faites.
C'est ça. On est sur des métiers passion, de toute façon après. Un peu comme tous les métiers de l'artisanat, je dirais, parce que bon, il faut trouver la force de se lever tous les matins, de se remettre en question, parce que c'est une remise en question permanente. Voilà, chaque fois qu'on ouvre la porte du magasin, c'est une nouvelle journée qui commence.
Ouais, ouais.
Voilà.
On va en parler ça dans un instant. Alors justement, je vais vous demander, je vous ai sourire en disant si vous alliez continuer, parce que je voulais savoir comment vont les bouchers aujourd'hui. Vous avez été bousculé ces dernières années par les crises sanitaires, pardon. Vous avez été bousculé aussi par, parfois, j'allais dire, tout ce qu'il peut y avoir autour de l'excès, entre guillemets, de viande, par des groupuscules aussi qui peuvent vous bousculer, qui peuvent, sur les réseaux sociaux... entre guillemets, bah vous assassiner, c'est vrai, il faut
c'est
le
ça,
dire.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez, vous, les bouchers ? Vous allez peut-être parler au nom des bouchers de la Haute-Garonne.
Hein. Ben, nous, très bien, hein, parce que bon, voilà, nous, on défend l'artisanat, la noblesse du métier. Donc, parce que boucher, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est partir déjà d'une bête entière et d'en faire tous ces petits morceaux.
Ouais. Et ça, c'est vous qui le faites.
Ça, c'est nous qui le faisons, voilà.
Ouais.
Et encore une fois, le respect du produit. C'est ça aussi qu'il faut tenir compte. C'est aujourd'hui, comme je dis, un morceau de viande, c'est quelque chose de noble. Voilà.
C'est-à-dire, respect du produit, c'est aussi ce que demande le consommateur.
Oui,
plus
oui,
de
oui.
Transparence.
Puis bon, c'est vrai que, comme je dis souvent à mes employés, n'oubliez pas que la bête que l'on travaille, il y a quand même un éleveur derrière qui a donné à manger tous les jours. Et donc, nous, on ne peut pas bâcler le travail. Voilà, on doit aussi respecter le travail de l'éleveur.
Alors, décrivez-nous votre journée, justement, Christophe. Ce que vous devez faire lorsque vous ouvrez la porte de la boutique.
Alors, la porte de la boutique, ben voilà, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc, on refait le rayon, on refait tous les morceaux de viande, la préparation, monter la vitrine, l'étiquetage, redésosser si on en a besoin. Et après, voilà, tout refabriquer, tout ce qui est charcuterie, les plats cuisinés. C'est une journée interminable. Et puis après, il faut être prêt pour l'ouverture quand la clientèle arrive.
Vous comprenez les clients qui posent des questions ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'ils viennent chez vous et vous posent des questions en vous demandant le nom des éleveurs, comment vous faites ça ?
Oui, les clients en posent des questions et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on est là pour ça. Quelque part, on est là pour rassurer le consommateur.
Mmh.
Et comme je dis, voilà, on parle de viande, quoi. Voilà, on parle, les gens, ils viennent, ils veulent vraiment nous parler, que l'on parle de viande. Voilà.
Vous allez au contact des éleveurs aussi, des producteurs?
Oui. Mais demain, justement, là, demain, entre midi et deux, je vais acheter des vaches, oui. Voilà.
Ça, c'est vous qui choisissez vos éleveurs?
C'est pour ça, en fait, quand je vous dis que c'est des journées interminables, demain matin, je suis dans ma boutique à 6h. À 13h, je pars chez un éleveur à Domazan-sur-Arizan. Et je reviens à 16h, il faut que je revienne à Brax pour ouvrir la boutique.
Pour ouvrir la boutique, mais c'est vrai que vous êtes passionné.
Ben oui.
Il faut.
Bien sûr. Toujours, toujours.
Alors, on va parler aussi de formation, parce que ça, c'est quand même important. Il y a beaucoup, 80 000 salariés en France, dans le monde de la boucherie. Mais paradoxalement, on n'arrive pas à recruter.
Non. Non, très, très compliqué, parce que... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai entendu encore la semaine dernière sur le salon, un artisan qui m'a dit « des apprentis, c'est fini, j'en prends plus ».
Ah oui.
Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut de la main-d'œuvre.
Ouais.
Tout le monde veut des repreneurs d'entreprise, hein, parce que bon, nos entreprises vont être à vendre
bien
aussi.
Sûr,
hein, voilà,
sûr,
on n'est pas éternel.
Il faut transmettre,
y a des anciens qui prennent la retraite.
Mm-hmm.
Et malgré ça, c'est donc si on ne forme pas, voilà, on n'a pas d'employés, on n'a pas de repreneurs. Et c'est des boucheries artisanales qui ferment, quoi.
Et c'est le cas aujourd'hui.
C'est le cas, oui. C'est vraiment le cas. Il y a quelques belles entreprises qui se vendent, mais après, il y a des petites entreprises sur des petites communes qui ferment.
Alors, pourquoi on ne veut plus faire ce métier?
Alors, nous, on le voit au niveau des jeunes, au niveau de la formation. Déjà, la barrière aujourd'hui, c'est quand même quand on dit de travailler le week-end. Le travail le week-end est devenu quand même une barrière... Des petits jeunes de 16 à 18 ans, quand on leur dit qu'il va falloir travailler samedi et dimanche matin, voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'incompréhension parce que tout le monde souhaite que tout soit ouvert tout le temps.
Oui, oui.
Et lorsqu'on veut recruter des gens pour travailler le week-end, c'est compliqué.
C'est compliqué,
voilà, oui. Un petit peu l'incompréhension.
Vous arrivez, vous, au niveau, j'allais dire, local et voire même national, à faire passer le message? Vous pensez qu'il y a suffisamment de communication, justement, autour de ces métiers qui sont des beaux métiers?
Oui, après, on essaie de communiquer, on essaie de... on est présent sur les salons, nous, on est présent, c'est pas pour mettre nos entreprises en avant, c'est juste pour mettre la profession en avant, le produit en avant et les jeunes en avant. Voilà,
oui,
les apprentis, là, sur le salon, on était présent, le CFA de Muret avait les apprentis.
Ouais. On parle du salon qui a eu lieu à Toulouse
récemment. Le salon qui a eu lieu à Toulouse, le Smart, voilà.
Voilà, le salon professionnel. Hein.
Salon professionnel, ouais. Où M. Piquemal, qui est formateur au CFA de Muret, était venu avec des apprentis pour mettre aussi le CFA en avant.
Oui, il y a des actions de communication, mais vous devez aller plus loin peut-être encore.
Oui, et puis bon, aujourd'hui, alors on a un nouveau phénomène aussi, c'est des adultes en reconversion professionnelle, où là on a une classe justement au CFA de Muret. D'adultes en reconversion professionnelle.
Ah, mais ça, c'est positif.
Alors, c'est positif, justement, parce que là, on a des gens souvent qui arrivent avec un vrai projet de reprise ou de création d'entreprise. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, on a ce phénomène-là depuis 5-6 ans où on a des adultes en reconversion professionnelle.
Ça, c'est plutôt très bien, alors.
C'est très, très bien.
Plus d'hommes, de femmes?
Plutôt des hommes.
Ouais.
Plutôt des hommes. Il y a quelques femmes. Mais bon, après, c'est vrai que c'est des métiers quand même physiques. Quoi, quand il faut sortir une cuisse de bœuf, je veux pas...
Vous voulez dire que...
Oui, bon,
faut avoir un peu de muscle.
C'est ça. Tout à fait. Quand on travaille dans l'artisanat, quand on part d'une vache entière, après, c'est physique quand même.
Alors, quel est le parcours, justement, on va dire idéal, hein, pour devenir boucher ou charcutier? La formation, donc, on passe à CAP?
On passe à CAP. Aujourd'hui, après, on passe à un brevet professionnel. Mm-hmm. Voilà. Et après, moi, ce que je conseille toujours à mes jeunes, c'est de finir par une formation charcutier-traiteur.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, le traiteur, quand même, c'est devenu un peu indispensable à la profession. Voilà. Parce que, comme je vous dis, quand on part d'une bête entière, il faut passer tous les morceaux.
C'est ça.
Du 1er janvier au 31 décembre. Et il faut savoir que l'été, quand monsieur et madame veulent une côte de bœuf, une entrecôte, un faux filet, il y a tout le reste de la vache qu'il faut passer aussi.
C'est ça.
Voilà.
Faut pas gâcher.
Il ne faut pas gâcher. Interdit.
Tout à fait.
C'est noble, la viande.
Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez enseigner, entre guillemets, à vos apprentis.
Tout à fait, oui. Le respect, oui.
Le respect de la bête, le zéro déchet au maximum.
Tout à fait. Zéro déchet, et puis voilà, comme je vous disais, ça se respecte, c'est... Moi, je trouve que voilà, c'est un bout de viande, c'est noble.
Ouais, voilà. Ouais. Combien gagne un boucher en termes de salaire mensuel?
Un ouvrier boucher?
Oui.
Aujourd'hui, pour vous donner à peu près une, je pense, alors, une fourchette, c'est entre 1500 et 2500 euros net par mois.
Ouais.
Voilà.
On est au-dessus des salaires moyens.
Oui, ben oui, mais aujourd'hui, comme je vous dis, on en est à se voler entre guillemets les employés entre nous. Voilà, il y a vraiment un manque de bouchers. Voilà.
Vous avez
de bons bouchers.
De bons bouchers, c'est-à-dire bon boucher. Vous aussi, on vous a volé un salarié, un collaborateur?
Non, bon après, bon moi, j'ai ma grande fierté, c'est quand des jeunes que l'on forme, eh bien, ils s'installent. Voilà,
ouais.
Donc ça, c'est quand vous êtes patron, c'est quand même sympa de voir les jeunes qui volent de leurs propres ailes.
Ouais, ouais, ouais,
donc ça, c'est une grande fierté. Mmh. Et après, malheureusement aussi, c'est vrai que quand on forme, souvent, on ne peut pas les garder tous non plus. Voilà.
Vous restez avec nous, Christophe.
Oui.
On continue à échanger donc, sur ce beau métier qu'est le métier de boucher charcutier. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
On s'intéresse à un savoir-faire, celui de boucher charcutier, avec Christophe Guy, notre invité. Il est aux commandes d'une boucherie installée à Brax, près de Toulouse. Bonjour Denis Avril.
Bonjour Doris.
Le métier de boucher charcutier, c'est vrai que on a une image peut-être de savoir-faire hein, artisanal, d'artisan, et on a aimé vous faire partager donc ce métier dans le goût d'entreprendre et vous le présenter davantage et puis donner envie peut-être à des jeunes de se lancer dans la profession. Denis, première question à notre invité.
Oui, justement, en parlant des jeunes, je voudrais approfondir un point qui a déjà été abordé, c'est celui des apprentis. Que vous avez dit que vous avez des confrères qui disent « je veux plus d'apprentis ». Mais en fait, après l'explication, enfin moi j'ai compris, mais j'ai peut-être mal compris, c'est qu'on ne trouve plus d'apprentis qui veulent. Alors est-ce que c'est les patrons qui trouvent ça un peu difficile parce que les normes, parce qu'on ne peut pas travailler en hauteur, parce que je ne sais pas quoi, enfin vous les connaissez? Ou est-ce que c'est que les apprentis ne veulent plus venir en boucherie?
Mais après, le problème, ce que l'on rencontre souvent après, comme je vous disais tout à l'heure, il suffit que le patron ait la malchance de tomber sur deux jeunes qui ne sont pas très très motivés, parce que c'est quand même un sacré investissement de former un jeune pour un employeur. Et souvent après, voilà, ils baissent les bras. Mais comme je dis, voilà, ça arrive. On ne peut pas non plus tomber sur des champions du monde, comme on dit chaque fois. Mais il faut être patient. Former des jeunes, c'est de la patience. Puis bon, après, il y a le problème générationnel aussi. Hein. On tombe sur des jeunes aujourd'hui qui ont du mal à lâcher le téléphone portable, en entreprise même. Donc, c'est à nous instaurer des règles et leur dire « Attention, t'es venu, tu as fait un choix d'apprendre un métier. Donc, tu vas te plier aussi aux normes de l'entreprise. » Et ça, c'est vrai qu'il y a des employeurs qui ont un petit peu de mal. Mmh, voilà. Mmh. Puis bon, il faut savoir leur parler aussi aux jeunes.
C'est ça, la pédagogie,
bien sûr. S'adapter aussi.
On le trouve dans beaucoup de métiers d'artisans, en fait.
Tout à fait, oui.
Un autre point un peu délicat qui a déjà été abordé, c'est un peu l'évolution de la société vis-à-vis de la boucherie, vis-à-vis tous ces mouvements animalistes, vegan ou autres, bon, avec des extrémistes bien entendu comme partout, mais il y en a aussi un autre qui touche à la fois entre la religion et l'aspect animaliste, c'est le traitement des animaux en abattoir, parce que bon, vous achetez vos vaches mais après il faut les abattre, et de transparence. On entend maintenant, beaucoup de gens qui disent « Mais moi, je veux savoir si la viande que j'achète est halal ou pas. » Parce que, bon, c'est très bien que ça finance une certaine religion. Et donc, comment vous réagissez là-dessus? Est-ce que vous savez, vous, comment sont abattus vos animaux?
Oui, bien sûr. Moi, je fais saigner à l'abattoir de Pamiers. Voilà. Et après, je sais qu'il y a des créneaux maintenant dans les abattoirs pour l'abattage halal. Voilà. Mais bon, après, c'est un petit créneau par rapport à...
Mais vous l'affichez, le client sait si la bête a été abattue de manière halal ou pas?
C'est surtout le halal qui l'affiche. Voilà. Nous,
donc quand c'est pas affiché, ça veut dire que c'est pas halal?
C'est ça.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Après, moi, j'ai quelques clients qui m'en demandent. Hein. Je ne fais pas du halal, mais j'ai quelques clients qui m'en demandent, oui.
Oui, voilà. Donc il y a aussi une réaction de certaines personnes qui disent « Mais moi, je ne veux pas acheter chose halal parce que justement l'animal a souffert, etc.
Tout à fait.
Et en plus, je ne veux pas financer le système. Voilà. Donc, c'est un problème un peu délicat, je crois, maintenant, dans les relations entre clients, probablement, que vous rencontrez. Enfin, peut-être pas vous à Brax, mais chez vos confrères. Quoi.
Oui, mais je peux vous dire que par rapport à la maltraitance animale, aujourd'hui, les directeurs d'abattoirs sont hyper vigilants là-dessus. Mmh. Et voilà, après, il y a eu quelques vidéos, bien sûr, toujours, qui ont été exagérées. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas éviter ce genre de choses.
Ce sont des préoccupations, en fait, que vous retrouvez dans votre boutique. Les gens vous en parlent ou... Oui.
Tout à fait, oui, les gens, ça les interpelle quelque part, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, on se doit, en bout de chaîne, de respecter encore une fois l'animal, même s'il est mort. Comme je dis, la bête est morte, mais la viande vit. Donc, on se doit de respecter.
Denis, une autre question.
Oui, je veux savoir s'il y a des tendances dans la consommation, dans les morceaux qu'on vous demande, dans la façon de les acheter et de les consommer. Est-ce que vous ressentez des évolutions un peu dans la clientèle?
Oui, alors l'évolution aujourd'hui, par rapport déjà au régime, voilà, beaucoup de régimes alimentaires, on a une progression de la vente de volailles, notamment de découpe de volailles, qui est importante. Oui.
Dans les assaisonnements aussi?
Dans les assaisonnements, bien sûr, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est sur des trucs, notamment les marinades, arrivés avec l'évolution, qui ont suivi l'évolution aussi de la plancha. Les gens ont délaissé un petit peu le barbecue pour la plancha. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte aussi à mariner des morceaux de façon à ce que tout soit prêt. Aujourd'hui, le tout prêt fonctionne très bien quand même.
Alors, être boucher aussi, ça veut dire proposer une offre différente. Dans votre établissement, par exemple, vous vendez du vin, du fromage. Ça aussi, en termes de chiffre d'affaires, c'est important. Ça représente combien à peu près dans votre volume d'affaires?
Alors, c'est un faible pourcentage, mais je pense que les gens aujourd'hui, toujours pareil, hein, tout le monde vit un peu à 200 à l'heure, entre les activités des enfants, tout ça. Et les gens, ils sont contents de pouvoir acheter un bout de fromage et se faire un plaisir avec une bonne bouteille de vin. Ce que je dis souvent, c'est pas notre première activité, mais j'aime le vin et donc je...
Partager.
Voilà, tout à fait.
Être boucher aujourd'hui, être commerçant au sens large, ça veut dire aussi recréer du lien social dans un village comme celui de Brax.
Ben tout à fait, nous tout petit, c'est un tout petit village et moi j'ai des gens qui me le disent clairement, ils me disent on est voisins mais il faut venir à la boucherie pour se rencontrer. Voilà, donc ça c'est hyper important aussi. Tout à fait.
C'est important d'être présent.
Oui, puis bon, ça fait 20 ans qu'on y est, donc on connaît quand même quasiment tout le monde.
Ouais.
Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont vu naître mon fils et aujourd'hui, il sert ces mêmes personnes. Donc, voilà.
Et ça, c'est beau pour vous.
Ah oui, c'est beau.
Ah, ça, c'est beau, la transmission. Denis, une autre question?
Oui. Vous sentez une concurrence des autres circuits de distribution ou vous pensez vraiment que vous êtes sur des créneaux un peu différents et que votre clientèle, elle ne va pas aller... supermarché du coin réciproquement.
Alors, la concurrence, oui, toujours, il y en a. Aujourd'hui, vous savez, vous avez les éleveurs qui se mettent à vendre de la viande en direct. Voilà. Vous avez des magasins comme les Gammes Vertes qui, aujourd'hui, avec la table des producteurs et tout, distribuent énormément de viande aussi, de viande, de volaille. Après, bon, la GMS, elle a toujours existé. Et bon, c'est à nous aussi à se remettre en question et puis s'adapter à la clientèle, à la demande.
Et innover, en fait. On parle d'innovation souvent, on parle d'innovation technologique, mais dans la boucherie aussi, il faut savoir
bien
innover.
Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Avec des préparations bouchères, les gens aujourd'hui, s'ils viennent, on a une clientèle qui vient en moyenne deux fois par semaine.
Ouais.
Donc si en venant deux fois par semaine, vous voyez toujours les mêmes produits, forcément, il y a de la lassitude, donc c'est à nous aussi à se remettre en question.
Voilà, de proposer autre chose. Vous faites des formations pour ça ou comment vous
bien
trouvez
sûr,
les
bien
idées?
Bien sûr, nous avons des stages justement avec le syndicat des artisans bouchers. On organise des stages de vente, des stages d'hygiène qui sont obligatoires aussi, des formations sur la découpe de l'agneau, des nouvelles recettes, voilà. On s'adapte, on essaie d'aider tous les artisans bouchers.
Est-ce que vous avez remarqué que les consommateurs... acheter moins de viande, mais on va dire qu'il faisait davantage attention à la qualité de la viande.
La qualité, la provenance.
Ouais.
Voilà. Tout ça, oui, bien sûr. Mais déjà, depuis la vache folle, quand la vache folle, les gens, oula, coup de frein, on s'est dit... Ouais. Et là,
vous avez peur,
ce
là.
Qui est important, ce qui est important, c'est quoi? C'est que les gens, pour se rassurer, ils sont venus voir l'artisan boucher. Mm-hmm. Parce que devant une barquette dans une grande surface, il n'y a personne pour parler de viande.
Bien sûr.
Quand vous allez chez l'artisan boucher, vous avez des professionnels devant vous qui sont capables de vous parler de viande. Voilà.
Tout à fait, tout à fait.
D'où vient la bête, comment elle a été élevée. Voilà, tout ça, c'est hyper important.
Mais ça, c'est hyper important. Vous avez une carte à jouer, là, à ce niveau-là, en termes de communication.
Bien sûr, bien sûr.
D'image.
Tout à fait. Moi, les gens, c'est pareil. Moi qui achète les bêtes vivantes, les gens, ils ont l'impression de voir les vaches dans le champ, qu'on va les chercher dans le champ. Je leur dis, mais non, c'est pas comme ça. Une bête, pour ce qu'on appelle la finir, l'engraisser,
ouais.
Elle est dans l'étable. On lui donne que de l'herbe sèche et des céréales. Mmh, voilà. Mmh. Donc tout ça, voilà, et bien les gens, je ne savais pas, donc c'est
bien
ça
sûr.
Qui est important aussi.
Il faut l'expliquer.
Le professionnalisme.
Il faut faire ouais. des vidéos, Christophe.
C'est ça, mais jamais au magasin, sur l'écran, voilà. Jamais aussi au magasin.
Innovation technologique.
C'est ça.
C'est ça. Vous êtes tout sur Instagram ?
Non, sur Facebook récemment, parce que là, par contre, voilà, je suis un peu largué en termes de nouvelles communications. Donc depuis le mois de septembre, on a mis ça en place, mais... Ouais, là, je suis pas fort là-dessus.
on parlait de lien social que les commerçants, hein, au sens large du terme, fait ce rôle de lien social, pardon. Dans la ville, par exemple, on voit réapparaître des petites boucheries à
oui.
Toulouse, notamment.
Oui.
Et ça, c'est plutôt positif.
Bien sûr. Oui, tout à fait. De toute façon, après, chaque fois qu'une boucherie ouvre, c'est positif. Mm-hmm. Ben, ça veut dire quoi? Que derrière, il y a eu un jeune qui a été formé.
C'est ça, ouais.
Ou un adulte, hein,
ouais.
Ce que je vous disais tout à l'heure.
Reconversion.
Et qui a fait le pas de s'installer. Qui a fait le pas.
Mais ça veut dire qu'il y a encore un besoin, il y a encore une envie de manger de la viande.
Bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je reste persuadé. Et comme je dis à mes employés, ne perdez pas de vue, c'est qu'aujourd'hui, on vend du plaisir aux gens.
Ouais,
les gens
ouais.
qui font l'effort de venir chez l'artisan, c'est qu'ils ont envie de se faire plaisir. Mmh, voilà. Donc on vend du plaisir.
Alors comment vous voyez évoluer le métier dans les années qui viennent?
Ah ben moi je reste persuadé que les gens viendront toujours chez l'artisan boucher. Je suis persuadé. Voilà.
Peut-être encore plus justement par souci de transparence.
Oui,
ouais.
Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait.
Ouais, ouais.
C'est à nous après à voilà à valoriser le métier et puis informer surtout.
C'est ça, communiquer.
Tout à fait.
Pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
C'est ça.
Alors il y a une question recette. Je voulais vous poser une question. La saucisse de Toulouse. Combien vous vendez de kilos de saucisse de Toulouse?
Alors
à l'année,
combien on vend de kilos de saucisse? Alors toujours
oui.
pareil. Bon, ça varie selon la saison.
Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que bon l'été on monte à 200 kilos de saucisse semaine.
Ah oui, 200 par semaine.
Ouais.
Ah ça reste encore une valeur sûre en fait.
Ah ben oui, la saucisse de Toulouse c'est une valeur sûre et puis c'est vrai que ça s'exporte très bien parce que moi j'ai des clients qui viennent voir de la famille à Brax et qui partent pas loin hein, à Bordeaux ils ne savent pas faire la saucisse de Toulouse et tant mieux pour nous. Et donc ils savent qu'on a machine à sous vide, ils repartent avec 5, 6, 10 kilos de saucisse. Voilà.
Ah là, le poids des traditions quand même. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Merci beaucoup Christophe d'avoir pris un peu de temps pour venir nous rencontrer au goût d'entreprendre. Merci à vous Denis. Christophe, vous nous rappelez, vous avez un site internet. On vous voit d'ailleurs aux côtés de vaches.
Oui, c'est ça. Voilà le site internet boucherieguy.fr.
Merci à vous. Continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.